Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas. Tarla dirada.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là. Tarla dirada.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama qui se poursuit pendant l'été avec le choix de vous proposer deux séries. Il y en a une qui concerne les True Crimes, adaptées par des films hollywoodiens. Et aujourd'hui, je vous parlerai de Jeepers Creepers, le chant du diable de Victor Salva. Et puis toi, Guillaume, dans ta série réalisateur mais aussi compositeur, tu nous as prévu quoi ?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du légendaire Clint Eastwood.
On t'écoutera avec plaisir. Il y aura aussi une toute petite partie actualité avec Sur la route d'Ohama de Cole Webley. Mais nous allons commencer avec la série True Crime. Donc c'est Jeepers Creepers.
Hollywood and True Crime Stories.
Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?
Les faits divers qui ont nourri le cinéma.
Il est arrivé quelque chose de grave.
Une série inspirée de l'ouvrage d'Esther Hervy, publié aux éditions du Rocher.
Merci, c'est très gentil. Je n'attendais pas tant d'égards.
C'est le diable en personne qui a pris possession de tout.
Ah, t'as voulu rentrer à la maison. Tu vas taper 10 heures de radio poulailler et des sermons.
S'il te plaît, tu pourrais la fermer une minute.
Tu as brisé mon cœur à coups de silence. Depuis, j'essaie en vain de recoller les petits morceaux. Je t'en fais cadeau. Avec moi, petite sœur. J'ai cru mourir le jour où on s'est rencontrés. Pour tout dire, j'ai eu envie de pleurer. J'ignorais que tu étais si mauvais ou qu'un jour tu me ferais du mal. Monsieur le petit étudiant en sciences politiques.
Cette fois, nous prenons la route pour cette série avec un film qui a réinventé le bogeyman au début des années 2000 en s'appropriant un fait divers d'une noirceur absolue, c'est Jeepers Creepers. C'est une route de campagne interminable comme il en existe des milliers aux États-Unis. Deux étudiants, un frère et une sœur, rentrent chez leurs parents pour les vacances. Soudain, dans le rétroviseur, un vieux camion rouillé surgit de nulle part, klaxonnant comme un damné, avant de les doubler de manière plutôt agressive. Quelques kilomètres plus loin, il revoit ce même camion garé près d'une église abandonnée. Un homme en long manteau sombre y décharge une forme humaine, on imagine, enveloppée dans un drap ensanglanté, et la jette dans une large canalisation, une sorte de puits. Cette scène d'introduction d'une efficacité redoutable ouvre le film culte Jeepers Creepers, donc sorti en 2001. Et si le film bascule ensuite dans le fantastique pur, cette entame n'a pourtant rien d'une fiction. Elle est le calque presque chirurgical d'un crime réel commis dans le Michigan en 1990.
En fin de compte, tu es un vrai... Et merde ! Putain, c'est quoi son problème ?
Ralentis ! Laisse-le passer, Dari ! Il veut doubler, laisse-le doubler!
Vas-y, double!
Mets-toi sur le côté, laisse-le passer!
Il est cinglé!
C'est un malade, arrête-toi!
Réalisé par Victor Salva, Jeepers Creepers a marqué le cinéma d'horreur moderne. Le film joue avec brio sur nos peurs primales, l'isolement, l'inconnu et cette curiosité morbide qui pousse les personnages à commettre l'irréparable. Trish et Derry, au lieu de fuir, décident de faire demi-tour pour vérifier si quelqu'un a besoin d'aide au fond de ce conduit. Ils y découvrent l'innommable, le film bascule alors dans un cauchemar éveillé où le poursuivant se révèle être le Creeper, une créature millénaire et démoniaque qui s'éveille tous les 23 ans pendant 23 jours pour se nourrir d'organes humains. Mais avant de devenir ce monstre ailé de cinéma, le tueur avait les traits d'un homme ordinaire.
Je suis sûr que tu sais à quoi je pense.
Kenny et Darla ? Ils sont morts à au moins 100 bornes d'ici.
Mais ils sont morts sur cette route.
C'est vrai, mais cette route traverse tout l'État.
Tu penses que c'est vrai ?
Quoi, qu'ils aient dû chercher la tête de la fille ?
Ils ont trouvé la voiture, mais pas les deux corps.
Il manquait la tête de la fille. Ils ont trouvé son corps. C'est le mec qu'ils ont pas retrouvé.
Rien que d'y penser, j'en ai des frissons.
Tu Tu crois pas que chaque génération a son histoire gore sur la soirée de fin d'année qui vire au cauchemar?
C'est une histoire vraie. Ils étaient au lycée de Wheaton Valley en 78. Je peux te dire un truc? Quand on m'a raconté cette histoire, j'ai eu le sentiment que je mourrais sur cette route.
Je vois qu'on a une pêche d'enfer aujourd'hui, petite sœur. Sans déconner. Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire, le petit étudiant de Sciences Po? Il t'a tapé dessus ou quoi? Ça me rappelle la plaque du gros fêlé qu'on vient de croiser. B-E-A-T-N-G-U. Ça donne... Beating you. Ça veut dire je te bats? Et ça veut dire que je marque un point.
Tu
oh, c'est génial!
Non, ça compte pas.
Bien sûr que si.
Il faut le dire quand tu l'as sous les yeux.
Mais j'étais en état de choc.
Ça n'a rien à voir.
Ah, t'as établi une nouvelle règle, c'est
non,
ça?
Non, on a toujours joué comme ça, c'est pas
et
nouveau.
Depuis quand?
Depuis toujours.
C'est ça. Tu viens de décider ça toute seule.
Ta mémoire fout le camp, c'est tout.
Pas du tout. Non, à l'infini.
Non, à l'infini, sans retouche.
La véritable histoire, c'est la traque de Denise DePue. Pour comprendre la genèse du film, Esther Hervey nous ramène donc au printemps 90 dans le comté de Coldwater, dans le Michigan. Un couple, Ray et Mary Thornton, roulent tranquillement sur une route isolée quand un vieux van déboueur commence à les harceler, les talonnant de manière extrêmement agressive avant de les dépasser en trombe. Et un peu plus loin, leur route croise une école abandonnée. C'est là qu'ils aperçoivent le van. Un homme en sort, portant un drap blanc maculé de sang. Alors les Tom-Tom ralentissent, horrifiés. L'homme croise leur regard et pris de panique, le couple accélère, mais le tueur monte à bord de son véhicule et alors s'engage une course-poursuite terrifiante pour tenter de les sortir de la route. Et les Thornton parviennent à lui échapper et contactent immédiatement la police. Sur place, les adjoints du shérif découvre le corps de Marsha DePue. L'homme au van n'est autre que son ex-mari, donc Dennis, un conseiller scolaire sans histoire apparente, devenu fou de rage après un divorce difficile. Après avoir abattu son ex-femme, il a tenté de dissimuler le corps derrière la vieille école. Alors une gigantesque chasse à l'homme commence. DePue va échapper aux autorités pendant près d'un an. Sa cavale prendra fin en mars 91 après la diffusion de son histoire dans la célèbre émission américaine Unsolved Mysteries. Reconnu par des téléspectateurs, il sera pris au piège par la police au terme d'une ultime course-poursuite au Texas et choisira de se suicider au volant de son véhicule plutôt que de se rendre.
Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête tes conneries! Darry!
Je te dis que j'ai entendu quelqu'un!
Tu sais, dans les films d'horreur, quand le mec fonce tête baissée dans les bras du tueur, tout le monde trouve ça débile, et ben là c'est pareil! Tu vas rester ici!
Y'a quelqu'un?
Non, Darry, reste ici!
Je vais descendre!
Arrête tes conneries!
Je vais juste te regarder.
Non, je ne veux pas que tu y ailles.
C'est bon, j'ai une idée. Tu vas me tenir par les pieds. Vas-y! Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que tu les as déjà passées à la machine, ces chaussettes?
Je vois quelque chose. Vous m'entendez?
Je te préviens, je compte jusqu'à 10.
Il y a quelque chose qui bouge.
À 10, je lâche tes pieds et je repars à la bagnole.
Tu vas te taire, oui? Il y a un truc qui gigote. C'est clair, ça bouge là-dessous. Attends.
Dans son ouvrage, l'auteur décortique comment le réalisateur a littéralement transposé le témoignage visuel des époux Thornton pour construire la première demi-heure de son film. Le van devient un camion d'écarisseur monstrueux, l'école abandonnée devient une église en ruine et le conduit d'aération remplace l'arrière du bâtiment. Victor Salva a même avoué avoir regardé en boucle l'épisode d'Unsolved Mysteries pour calquer l'ambiance visuelle et le rythme de la traque. La rupture avec le fait divers intervient lorsque le personnage de Derry descend dans le conduit. Là où Denise DePue n'avait qu'une seule victime, le film fait basculer le spectateur dans l'antre d'un tueur en série, mythologique, tapissé de dizaines de cadavres cousus les uns aux autres. Le long métrage transforme le fait divers sordide en une allégorie de la fatalité et du mal absolu. Jeepers Creepers prouve à quel point le cinéma de genre sait capter l'essence d'une terreur bien réelle pour la transcender. Et la prochaine fois, que vous roulerez de nuit sur une départementale déserte et qu'un véhicule un peu trop pressé apparaîtra dans vos phares, vous repenserez forcément à Denis DePew et vous éviterez à coup sûr de faire demi-tour, même s'il se passe des choses bizarres. Appelez donc la police. Tu l'as vu, toi, ce film, Jeepers Creepers?
Oui, je l'ai vu, produit par Coppola, hein, et je pense que c'est un petit chef-d'œuvre métaphorique. Hein, renseignez-vous un petit peu sur la triste histoire de Victor Salva. Mais ce qui est amusant, c'est que tu as parlé donc du camion au début. C'est aussi un clin d'œil à Duel de Steven Spielberg. Et ce qui est amusant, c'est que quand on a demandé à Victor Salva de faire Jeepers Creepers 2, cette fois-ci, il va s'inspirer des Dents de la Mer, sauf que la mer devient des champs de maïs.
Eh ben voilà, c'est pas la même étendue. Pour la prochaine chronique sur les films d'Hollywood inspirés de faits divers, nous resterons sur la route du cauchemar, hein, mais nous changerons de continent pour affronter l'immensité hostile de l'outback australien, puisque nous parlerons du survival Wolf Creek et les crimes qui ont marqué l'Australie à tout jamais. Deuxième série de cette émission estivale de Cinérama, nous parlons des réalisateurs qui sont aussi compositeurs de musique de films. Mais après avoir parlé de John Carpenter, nous parlons d'un autre grand réalisateur américain, c'est Clint Eastwood.
Merci monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Lorsqu'on évoque Clint Eastwood, on pense spontanément au western de Sergio Leone, à l'inspecteur Harry ou aux nombreux chefs-d'œuvre qu'il a réalisés depuis plus de 40 ans. Pourtant, un aspect de son œuvre reste souvent dans l'ombre. Clint Eastwood est aussi, parfois, compositeur et c'est une activité qui est même au cœur de sa manière de faire du cinéma. Dans les années 50, le jeune Clint Eastwood passe des soirées entières dans les clubs de jazz d'Oakland. Il écoute Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Dave Brubeck, Errol Garner ou encore Thelonious Monk. Il apprend le piano, collectionne les disques et nourrit un amour profond pour le blues. À une époque, il imagine même devenir musicien, rêve concrétisé dans le Honky Tonk Man qu'il réalise et où il interprète un chanteur de country. 20 ans plus tard, il réalise Piano Blues pour la série documentaire de Martin Scorsese où il échange avec Ray Charles, Dr. John, Dave Brubeck ou Pinetop Perkins. On comprend donc que si Eastwood compose lui-même les musiques de ses films, c'est parce qu'il entend ses films avant même de les réaliser. Dépouillement musical de Claudia Stem, issu de la BO d'Impitoyable, correspond parfaitement à la mise en scène. Eastwood déteste les effets inutiles et éconnus d'ailleurs pour multiplier rarement les prises, laissant respirer ses acteurs et refusant de surligner les émotions. Son écriture musicale obéit à la même règle, enlever tout ce qui est superflu jusqu'à ne conserver que l'essentiel. Il explique souvent qu'une musique ne doit jamais attirer l'attention sur elle-même. Elle doit accompagner le film et pas le dominer. Claudia Stem ne raconte pas la violence de notre anti-héros, mais la mélancolie du souvenir, la culpabilité du passé et la disparition d'un monde qu'il va embrasser une ultime fois dans sa dernière mission. Thank you. Lorsqu'il compose la musique de Mystic River, Eastwood résume le thème principal à une poignée de notes. Dans un entretien, il explique qu'il a construit cette mélodie autour d'un accord très simple, presque comme une esquisse, parce que le véritable drame doit rester dans les personnages et non dans la partition. Il applique ici la même technique que pour Impitoyable en musicalisant le fond et pas ce qui est la forme. Dans beaucoup de thrillers hollywoodiens, la musique annonce le danger, prépare les rebondissements ou force le suspense. Or, Eastwood fait exactement l'inverse. Sa musique accompagne les personnages avec une infinie pudeur et évacue le sensationnel pour mieux laisser au spectateur la liberté de ressentir les émotions de ses personnages sans jamais les lui dicter et de mieux comprendre leurs tourments intimes. Là encore, avec le thème de Million Dollar Baby, impossible de ne pas entendre l'influence du blues. Alors, non pas que la musique reprend forcément ses codes, mais parce qu'elle partage son état d'esprit. Le blues raconte souvent des existences ordinaires, des douleurs profondes et des désillusions intimes, on l'avait vu avec John Carpenter. Le piano du thème de Million Dollar Baby avance avec une extrême lenteur, sans effet spectaculaire, mais c'est touché directement au cœur. Eastwood, le réalisateur, et Eastwood, le musicien, prouvent leur cohérence totale, les deux préférant l'émotion à la démonstration. C'est peut-être ici qu'on expérimente la plus belle leçon que lui ont transmise les grands musiciens de jazz qu'il admire, savoir dire beaucoup avec très peu. Avec Changeling, son écriture devient plus ample et laisse les cordes occuper davantage d'espace narratif. L'orchestre prend de l'importance, mais l'esprit reste le même. Chaque mélodie semble avancer avec retenue, comme si Eastwood refusait encore de céder à la grandiloquence alors que le thème du film, celui d'une mère se battant pour retrouver son fils disparu, est hautement dramatique et riche en suspense. C'est l'amour et dévotion de cette mère qui sont les héros de la composition d'Eastwood, enrobant la partition d'une douceur déchirante. Tout au long de sa carrière, Eastwood a rendu régulièrement hommage à ses pairs comme Don Siegel ou Sergio Leone, mais en musique, il n'aura jamais cherché à rivaliser avec les grands compositeurs hollywoodiens. Et c'est peut-être pour cette raison que ses partitions paraissent si sincères et qu'elles complètent si bien les histoires qu'elles aident à raconter. Elles respirent au rythme des personnages. Qu'il soit derrière une caméra ou devant un piano, il raconte des histoires avec la même élégance, la même retenue et cette confiance rare accordée au silence. Car chez lui, le silence n'est jamais une absence de musique, c'est une manière de composer en mettant de côté, comme on l'a dit, tout ce qui était superflu.
La semaine prochaine, tu reviens avec un autre réalisateur qui a fait ses musiques.
Oui, et une autre nationalité cette fois-ci, ce sera Alejandro Amenábar.
Mais on n'en a pas tout à fait terminé avec Clint Eastwood. On vous propose la rediffusion d'un blind test autour de la filmographie du talentueux réalisateur américain. 5 extraits, 5 titres à trouver.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Premier extrait.
Qu'est-ce qu'il a fait avec toi, ton manager? Tu étais un grand boxeur, bien meilleur que Willy. Il t'a mené jusqu'au titre, ou alors il t'a embarqué dans des combats inégaux où t'en as pris plein la figure, jusqu'à ce que tu laisses un œil. J'ai eu ma chance. J'ai eu un beau parcours et personne ne dira le contraire. Oh, moi aussi j'ai une très bonne mémoire. Et je suis désolé, mais je ne voudrais pas que mon poulain passe le restant de sa vie à faire le larbin et à passer la serpillière.
Oui, c'est ça. Alors que toi, tu t'instruis. Toi, tu étudies le grec.
C'est du gaélique.
La vérité, c'est que tu n'as pas eu le courage d'affronter un championnat du monde. Comment tu dis ça en gaélique?
Trouvé.
C'est Million Dollar Baby?
Eh oui, adapté de la nouvelle La fille à un million de dollars, film de 2004, qui raconte l'histoire d'un entraîneur de boxe, un homme rejeté par sa fille qui se laisse convaincre par l'inflexible détermination d'une jeune femme qui veut monter sur le ring coûte que coûte. 4 Oscars, celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Hilary Swank et du meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman, que l'on entendait, ou du moins la voix française que l'on entendait dans cet extrait. 3,2 millions d'entrées en France, deuxième extrait de ce blind test consacré à Clint Eastwood.
Mais la mère de Hank est sur cette liste?
Charmante femme. Elle sait à quel point vous étiez lié avec son fils. Il parle de vous dans ses lettres. Elle a vraiment, vraiment hâte de vous rencontrer.
Hank n'était pas sur la photo.
Pardon?
Hank n'a pas hissé les couleurs. Il a planté l'autre, le véritable drapeau.
Le quoi? Le véritable drapeau? Il y a un véritable drapeau?
Oui, le nôtre était le drapeau de remplacement. On l'a planté après qu'ils aient descendu le premier.
Attendez, je suis le seul à avoir la tête qui tourne. Vous étiez au courant?
Je l'ai été après. Les journaux l'avaient déjà publié. Les maires étaient déjà prévenus, mais...
Oh, ça, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oui, pourquoi me le dire? C'est moi qui dois essayer d'expliquer ça à 150 millions d'Américains. Mais qui est sur cette putain de photo? Est-ce que l'un de vous est sur cette putain de photo?
C'est trouvé, Guillaume.
C'est Mémoire de nos pères, le premier de son diptyque là, qu'il a fait pour DreamWorks avec Mémoire de nos pères du côté américain et Lettre d'Iwo Jima, le côté japonais de la même bataille.
Film de 2006, en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsqu'une photo prise au hasard de 6 soldats yankees levant un drapeau pendant la bataille d'Iwo Jima devient un emblème pour la cause américaine, eh bien les survivants se voient transformés en héros, mais difficile pour ces soldats d'oublier ce qu'ils ont vécu. 491 000 entrées en France. Troisième extrait du blind test consacré à Clint Eastwood.
Je les ai entendus parler de toi. Les codes 12, ils ont dit. Sur ordre de la police. Et les docteurs, le personnel, ils se disent que si la police t'a amené ici, c'est qu'ils avaient une bonne raison de le faire.
Non, ils n'avaient aucune raison. J'ai bien toute ma tête et je compte clarifier ça avec eux.
Comment? Plus t'essaies d'agir en personne sensée, plus t'as l'air dingue. Si tu souris trop, c'est que t'es une mythomane, une hystérique en puissance. Si tu souris pas, tu es dépressive. Si tu te montres neutre, t'es replié sur toi-même, prédisposé à la catatonie.
Vous avez bien étudié la question.
Ouais. Tu piges?
Trouvé, Guillaume, encore une fois.
L'échange?
Oui. Film de 2008 avec Angelina Jolie et John Malkovich. Nous sommes à Los Angeles en 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Et puis, eh bien, quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit. Et quelques mois plus tard, un garçon de 9 ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle, mais au fond d'elle, eh bien, elle sait que ce n'est pas son fils. 1,4 million d'entrées en France. Quatrième extrait.
Oh, ces hommes ont été entraînés par le SAS. Ils ont une grande expérience. Ils protégeaient de Claire.
Oui, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent...
Vous avez demandé plus d'hommes, non?
Oui, monsieur, j'ai demandé à...
Lorsque les gens me voient en public, ils voient mes gardes du corps. Vous me représentez directement. La nation arc-en-ciel commence là. La réconciliation commence là.
La réconciliation?
Oui, la réconciliation, Jason.
Alors, j'ai entendu beaucoup de titres de films dans ce studio, mais aucun n'était le bon. Alors, il y a eu un indice parce qu'il a donné...
Un monde parfait ?
Non. Il a donné le nom d'un président, d'un État où il y avait un système discriminatoire. Il est question de rugby dans ce film.
Ah, c'est, ah, c'est une...
Oui, et c'était la voix de Morgan Freeman. En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'apartheid. Et puis, pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, eh bien Mandela mise sur le sport et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari se présentait au championnat du monde 1995. Donc, Morgan Freeman et Matt Damon dans ce film qui a réuni beaucoup de monde en salle. 3,1 millions en France. Dernier extrait de ce blind test, il faut trouver un titre de film de Clint Eastwood.
Votre famille a toujours possédé des collections?
Voilà une façon délicate de me demander si ma famille avait de l'argent.
Alors?
Non. Je suis né à Gordon en Géorgie, une petite ville à côté de Macon. Mon père était barbier et maçon à ses heures perdues. Ma mère était secrétaire. La fortune que j'ai date d'environ une dizaine d'années. C'est vrai. Oui, je suis un nouveau riche. Mais enfin, c'est le mot « riche » qui compte dans l'expression. Il n'y a que deux choses qui m'intéressent. Le travail et tous ces petits apparats de l'aristocratie qui ont de la valeur à mes yeux. Les belles choses qu'ils sont forcés de vendre quand l'argent vient à manquer. Et il vient toujours à manquer. Alors tout ce qu'il leur reste, c'est leur jolie manière.
Va te faire foutre, pauvre pétasse!
Encore une fois, trouvé, Guillaume.
C'est Minuit dans le jardin du bien et du mal.
Oui, c'est d'ailleurs le seul film en dessous des années 2000 hein, de ce blind test, film de 1997 avec Kevin Spacey et John Cusack, adaptation du roman du même nom. Le film raconte l'histoire de John Kelso qui est envoyé à Savannah par le magazine Town & Country pour couvrir la grande fête qu'organise chaque Noël Jim Williams, antiquaire et collectionneur d'art dans sa résidence légendaire et qui est située au cœur de la ville. Mais durant la nuit, eh bien, Jim Williams est arrêté et inculpé du meurtre de son jeune compagnon, Billy Henson. Et donc intéressé, John Kelso décide de rester. Ce film a réuni un peu moins de 500 000 spectateurs en France. C'était la rediffusion d'un blind test consacré à Clint Eastwood. Nous passons maintenant à l'actualité de cette émission avec le film Sur la route d'Ohama qui a conquis le festival de Deauville. Ce road movie raconte le bouleversant voyage d'un père et de ses deux enfants où chaque kilomètre dévoile un peu plus un secret aussi douloureux qu'inévitable. Nous en parlons maintenant.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Un matin, un père embarque ses deux enfants dans sa vieille voiture qu'il faut pousser pour qu'elle démarre. Ce départ n'est pas forcément compris hein, pour la progéniture puisque le père leur dit très calmement hein, qu'il faut qu'ils fassent comme si la maison brûlait. Or, elle ne brûle pas, mais probablement qu'elle devient inhabitable faute de payer les loyers. Alors, il n'emporte pas grand-chose pour ce road movie de plusieurs milliers de kilomètres qui les emmène dans une destination lointaine, le Nebraska. Pourquoi là-bas ? Eh bien, on ne le saura qu'à la toute fin. Avant ce moment de révélation, eh bien, c'est le voyage qui nous intéresse et ce qui se passe entre tous ces personnages délestés du chien, abandonnés en cours de route dans un chenil.
Just take one.
What time are you open? Probably tonight.
Is Dad mad at us?
I don't know.
Prix du jury au festival de Deauville sur la route d'Ohama de Cole Webley nous emmène sur la route, donc croisant les hôtels un peu miteux, les stations-service où il est toujours bon pour les enfants de choper des glaces ou des bonbons. Alors à chaque arrêt, hein, on sent que le père compte les dollars, mais se refuse pourtant à mécontenter ses enfants qui sont pour le moins attachants. Âgés de 8 et 10 ans, ils suivent leur père sans savoir où il va. Âgés de 8 et 10 ans, ils suivent leur père sans savoir où il va. Alors il y a le lac Salé hein, sur lequel ils font du cerf-volant, tandis que le père, lui, semble soucieux du trajet qu'il a entrepris. Il y a aussi le zoo de la ville qu'on leur a recommandé comme une attraction à ne pas manquer. Et en les voyant tous les trois, sans leur mère absente, et on sait pourquoi, hein, eh bien on saisit qu'ils ont là toute d'une famille, mais que ce bonheur n'est qu'apparent. Que cette famille, le père semble incapable de la porter, l'assumer, incapable d'être tout à fait tendre et dur quand il faut. Durant ce voyage, ce que l'on voit est ce que l'on va quitter. On sent à mesure que le film arrive à son terme que le père a pris bien, une décision radicale, alors que la plus grande partie du film se partage entre route, discussion familiale, jeu entre enfants et moments d'évasion avec ses grands espaces américains. La fin, elle, est dédiée à l'émotion et puis aussi à l'explication. Sur la route d'Ohama est un film clair, court, 83 minutes seulement, qui met au jour une réalité sociale de notre époque et dont les derniers mots sont « je crois que j'ai besoin d'aide. Sur la route d'Ohama est en salle depuis le 22 juillet.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine. Nous aurons deux films d'actualité, The Ugly et puis Le Triangle d'Or. Et nous reviendrons avec nos séries, toi avec un réalisateur aussi compositeur.
Oui, Alejandro Amenábar.
Et moi je vous parlerai de Wolf Creek. À la semaine prochaine.